Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Carcassonne, tiens, sur 104.7, et que l'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. Comme d'habitude, on parlera du livre que la terre entière nous envie et s'arrache. Hein. Tout le monde s'est dégusté le goût du vin et ses secrets. On répondra à une question. Pourquoi irriguer ou pas la vigne le vin? Est-ce que c'est un incident sur le vin? On verra avec David tout ça. Le château pêche haut dans le Languedoc et puis le vino quiz pour gagner des jolis cadeaux. À mes côtés, attention, Hélène Piau, la seule voix féminine de l'émission. Elle est belle. On vous aime, vous savez, Hélène.
Bonjour, chers auditeurs.
Bonjour, bonjour. Et après, alors, les garçons, hein, David Cobol, Bertrand Rouget, Fabien Imbray.
Est-ce que vous pouvez juste dire Hubert?
Hubert. Bon, vous allez bien, messieurs? Tout va bien? Bon, ouais, très bien, ouais, en pleine forme, quoi. Hein, Fabien? Donc, aujourd'hui, on va commencer avec vous, Invino Sud Radio, Hélène Piau, et on va accueillir un premier invité qui, souvent, est de l'autre côté de la barrière, si je puis dire, même si les cheveux ont poussé, Pierre Guigui, un fidèle de notre émission, qui vient de publier son dernier livre, Pierre. Bonjour, Pierre.
Bonjour.
Vous l'avez lu, là, le passe-bouquin?
Oh, ben écoutez, oui, un peu par hasard, mais non, il est super bien. Ça s'appelle « Tout le monde s'est dégusté, le goût du vin et ses secrets ». Et Pierre n'est pas le seul à l'avoir écrit, il l'a écrit avec Sophie Brisseau, aux éditions Apogée. Et alors ce vin, effectivement, ce livre, il interpelle parce que tout le monde s'est dégusté. On était tous très vexés dans la confrérie parce que forcément, nous, on pense tous que les dégustateurs, on est les seuls à savoir faire. Hein. Alors le vin avec une turbidité proche de l'opalescence, un léger empire aromatique.
C'est parti.
Et ben voilà. Et ben ce vocabulaire-là, Pierre Guigui, vous nous dites que c'est n'importe quoi, qu'il faut se calmer, que les bébés, si vous leur donnez un truc super salé, ils font la grimace, que si c'est mère, ils n'en veulent pas parce que génétiquement ils ont un bout de cerveau derrière l'occiput qui leur dit oulala, c'est du poison, et que finalement le vin, vous, moi, tout le monde.
La parole est à la défense.
Oui, en fin de compte, on ne se pose pas la question pour le fromage, on ne se pose pas la question pour le saucisson, pour le petit pot de légumes qu'on donne au bébé. Le bébé, s'il trouve que ce n'est pas bon, il tourne la tête, il dit que ce n'est pas bon.
Ben
c'est-à-dire
oui.
que tout le monde est capable de savoir si c'est bon ou pas bon pour l'organisme. C'est-à-dire que nous sommes omnivores mammifères, et de ce fait, nous avons un goût qui déjà est établi au départ. Ensuite, bien sûr, il y a une construction sociale tout autour de ce goût-là, du goût de omnivore au départ. Mais on a instinctivement, tout le monde sait reconnaître si c'est acide, si c'est amer. Mmh. Vous faites une photo.
S'il aime, s'il n'aime pas.
Après, on va bien sûr construire des savoirs, des connaissances. Ça s'appelle une construction sociale. On va construire des savoirs, et ces savoirs-là sont sur la base, malgré tout, de notre instinct de dégustateur.
Et ensuite, il y a la question de pouvoir mettre des mots sur les sensations.
Exactement. Ça, c'est la seconde phase. Alors là où
ça, c'est pas facile. Hein.
Alors, c'est la différence entre les amateurs et un professionnel. C'est que ça a été fait par des chercheurs à l'Institut Pasteur, entre autres, qui se sont rendus compte que le cerveau des professionnels vont beaucoup plus vite pour connecter une sensation avec un mot. Alors qu'un amateur, lui, ne connecte pas. Il s'y connaît pas l'arôme, si c'est pas que c'est un arôme de rose, il va chercher, il va dire ça me semble être ceci ou cela. Mais un professionnel a emmagasiné un nombre incroyable d'informations qui va connecter à la sensation.
Ça s'appelle une base de données, et il faut la constituer.
Voilà.
Et l'actualiser.
Oui. Et la troisième phase, c'est ce qui est bon ou pas bon. Ça, c'est la troisième phase.
C'est juste une question d'entraînement, alors finalement.
Fabien Imbert.
Oui, c'est une question d'entraînement, bien sûr, ouais. Ouais, tout à fait.
Donc tout le monde s'est dégusté, mais effectivement, il faut cet entraînement, comme le disait Fabien. C'est-à-dire qu'un jeune qui démarre, une jeune évidemment, qui démarre, qui n'a pas encore goûté énormément de vin dans son existence, est-ce que du coup, il va aller directement plus vers des vins sucrés, comme on le dit parfois, vers des rosés, ce qui fait toujours très plaisir à David Cobold. C'est bientôt l'été, vers des vins piscine avec plein de glaçons. Mmh. Ou est-ce que naturellement, il peut déjà démarrer, s'il a envie, par un gros rouge tannique?
Alors ça, c'est donc ce qu'on appelle la construction sociale, c'est-à-dire que vous faites goûter un vin tannique à un enfant de 15-16 ans, a priori, il aura un peu de difficulté, c'est-à-dire qu'il va se poser la question, qu'est-ce que c'est ce goût amer, qui contracte les papilles, ça me fait un peu régurgiter, il ne va pas forcément être à l'aise. Mais on va lui dire que c'est bon. Et le fait de lui dire que c'est bon...
Ça va le conditionner, ça.
On va conditionner ça, sa connaissance, et du coup, il va finir par dire, tiens, ça... Je l'ai déjà goûté, on m'a dit que c'était des tanins, et donc c'est bon. Mais c'est juste une construction sociale, c'est juste un apprentissage.
On peut appeler ça le lavage de cerveau aussi.
Moi j'ai une question, est-ce que c'est vrai que pour bien goûter, il faut goûter trois fois? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment se faire une avis, là le jeune homme, il goûte pour la première fois un vin tannique, La première fois, il ne va pas trop avoir d'avis. Il faut, pour bien actualiser la base de données, c'est trois fois qu'il faut goûter minimum, non ?
On peut dire trois fois, mais on peut dire aussi toute une vie. Parce qu'en fin de compte, ça se construit, bien sûr, trois fois peut-être, effectivement, au départ, pour faire passer la première sensation qui est peut-être un peu déplaisante et passer au-dessus. Mais en fin de compte, cette base de données, elle est actualisée tout le temps.
Ouais, David Cabal ?
Alors, selon vous, Pierre, est-ce qu'il y a des meilleurs dégustateurs que d'autres ? Question alors, piège.
Et le nom des mauvais, si possible.
Alors, les mauvais autour de la table, il n'y en a aucun, je crois.
Attendez, je me concentre.
La réponse est bonne.
Jusque-là, ça va, vous pouvez continuer.
Ce n'est pas une question piège, c'est une vraie question.
Non, je ne sais pas s'il y a des personnes qui dégustent mieux que d'autres, il y a des personnes qui font plus attention à ce qu'ils font.
Ah, ça c'est important.
Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, un omnivore mammifère est plus proche d'un autre omnivore mammifère que d'un chat. C'est-à-dire que l'alimentation autour de la table, on a tous la même alimentation, on a même tous les mêmes appétences, donc glucides, lipides à la base, et on va construire notre culture autour de, pour compléter ces premières impressions qu'on a. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont s'entraîner, qui vont beaucoup travailler, qui vont arriver à effectivement à être de bons dégustateurs, entre guillemets, mais il ne faut pas oublier que la dégustation, c'est percevoir. Ça, au niveau de la perception, on est à peu près tous égaux. Ensuite, c'est mettre des mots. Et là, il faut du boulot.
Oui.
Et ensuite, il faut dire si c'est bon ou pas bon. C'est encore une troisième étape. Oui. Et c'est un consensus.
Et aussi une notion de relativité. C'est-à-dire bon ou pas bon par rapport à un certain cas.
Hélène, vous nous rappelez le titre du dernier ouvrage de Pierre Guigui, à ne pas louper.
Tout le monde sait déguster le goût du vin et ses secrets. Donc c'est signé Pierre Guigui et Sophie Brisseau, collection Boire le Savoir, aux éditions Apogée, 116 pages, 12 euros, c'est cadeau.
Merci beaucoup, merci à tous les deux. Edvino sur Radio, on retrouve maintenant Fabien Imbert, qui est journaliste à la Revue du Vin de France. Pour tout le dire sur les arnaques, pourtant vous n'avez pas une tête d'arnaqueur, vous.
Hein. Bah, c'est pas moi, hein. je vous jure, il n'y a pas la police qui m'attend à la sortie là. Alors en fait, il y a des arnaques, je peux parler des arnaques dans les bouteilles de vin. C'est-à-dire il y a des sociétés qui vont vous approcher pour vous dire « donnez-moi votre argent et je vais investir dans le vin ». Alors quel amateur n'a jamais rêvé de gagner de l'argent, de devenir riche en achetant des bouteilles de vin ? Alors il y a ces sociétés qui vous proposent monts et merveilles, qui vous proposent de transformer ce rêve en réalité sonnante et trébuchante. Donc en gros, ils achètent pour votre compte, ils stockent, et ils revendent quand la cote est au plus haut. Donc ça, c'est la version quand tout va bien, on va dire. Et on a de plus en plus de lecteurs à la Revue du Vin de France qui nous appellent pour nous demander des conseils sur des sites. Sauf qu'une bonne partie des sociétés qu'on voit actuellement, et qui vous promettent donc monts et merveilles, sont irrégulières, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de faire appel à l'épargne du public. Donc il faut aller sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF. Tout le monde ne la connaît pas, mais c'est très important. Consultable donc sur le site internet, on trouve pas moins de 30 sites concernant le vin, sur 200. Donc parmi les autres placements louches du moment, que sont les diamants, les crypto-monnaies et les vaches. Pourquoi les vaches ? J'ai pas très bien compris.
C'est pour la Corse.
Mais en plus, c'est vrai. Je vous jure, mais en Corse aussi. Enfin, on en parlera un autre jour.
Et bien, ils sont spéciales vaches aujourd'hui.
C'est ça. Alors, et une bonne partie de ces 30 sites sont en fait des arnaques en bonne et due forme. Donc dans la Revue du Vin de France de juillet, on va faire notamment un focus sur un couple de Vichysois qui s'est fait arnaquer de 200 000 euros en 3 semaines seulement.
200 000 euros ?
200 000 euros.
Ça, ils étaient riches.
Oui, ils les avaient au départ.
Ça arrive à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, des chômeurs en fin de droit qui veulent essayer de retrouver un peu d'air. Voilà. Voilà, donc par une société qui s'appelle Stockwine qui a depuis fermé. Donc alors comment c'est possible ? Est-ce qu'il faut être naïf ? Pas forcément, parce qu'en fait, toutes ces sociétés ont toute l'apparence de l'honnêteté, de la pondération. Alors, comment ça se passe concrètement ? Donc, vous êtes contacté par une entreprise où l'investissement dans le vin est présenté comme un actif sûr, un placement de bon père de famille. Sur leur site internet, à aucun moment, il y a marqué qu'on va faire des plus-values incroyables. L'adresse de l'entreprise est située dans une artère prestigieuse de la capitale, par exemple, place de la Madeleine. Bref, on ne se méfie pas. Et lorsqu'on mise sur ses premiers euros, c'est là que le piège se referme. Imaginons qu'on mette 10 000 euros. C'est déjà pas mal.
Bien sûr.
Voilà, sur un lot de vin, Gagnon Ronflant, Cormann et Conti, Pétrus, etc. Quelques jours plus tard, votre compte est crédité de 15 000 euros. Donc on a gagné 5 000 euros, mais ce n'est pas votre compte en banque. Hein, c'est le compte de la société qui vous a demandé de l'argent. Donc vous avez gagné 5 000 euros. Là, l'entreprise vous rappelle, vous dit, là, on a une nouvelle offre pour vous. Il faut que vous mettiez 30 000 euros sur la table. Vous avez déjà 15 000 euros, donc rajoutez 15 000 euros.
Ben oui, c'est ça.
Quelques semaines plus tard, vous avez 60 000 euros. Et là, on vous dit, bah là, j'ai une nouvelle offre à 100 000 euros. Voilà. Et ainsi de suite.
C'est incroyable. Hein, c'est...
Voilà, donc
il y a un nom pour ça, hein, pour ce genre d'escroquerie. Non,
c'est pyramidal, non, c'est pas ça.
La pyramide de Ponzi.
Ah oui, c'est ça.
C'est exactement ça.
Donc vous l'aurez compris, ces vins, vous n'en verrez jamais la couleur et votre argent, vous ne le retrouverez jamais. car dès que vous demanderez les bénéfices soient versés sur votre vrai compte, l'entreprise se lancera dans des manœuvres dilatoires pour retarder l'échéance, vous proposera d'autres offres incroyables, et si vous insistez, elle cessera tout contact et tout bonnement avant de disparaître. Donc tout était faux. Mmh. Alors maintenant, voyons comment éviter les arnaques. En fait, oui. C'est très simple. Premier conseil, lorsque vous êtes démarché, vérifiez bien que l'entreprise a reçu l'agrément de l'AMF, l'autorité des marchés financiers.
Ouais, s'il n'y a pas d'AMF, voilà. Point de salut.
Ils ont un site internet. Là, c'est simple, il n'y a que 3 sociétés qui peuvent le faire, donc qui ont l'agrément, La Bergère, YouWine et Cavissima. À ne pas confondre avec Cavissimo, qui, lui, est sur la liste noire.
Cavissimo est sur la liste noire, le Cavissima. C'est un peu comme le cépage suisse la semaine dernière.
C'est surtout quand même des gros filous.
Oui, alors s'ils sont liste noire, ça ne veut pas dire forcément que c'est des arnaques. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de faire public appel à l'épargne.
D'accord, donc c'est d'accord. En tout cas, ils jouent un peu sur les mots.
C'est ça.
Bon, alors ensuite, si au cours des discussions, la société vous promet des plus-values garanties, fuyez tout de suite.
Oui. Hein,
tout placement comporte des risques, sauf le livret A et l'assurance vie, en fonds euros. Et encore, ces derniers vous proposent seulement 0,75 et 2% de rendement par an. Le rendement, ça peut être un autre indice. Donc si on vous propose un rendement, disons, de plus de 10% par an, c'est que c'est un placement risqué, voire très risqué. Si c'est 8, 10, 20%, 30% et plus, parce que ça arrive, hein, en quelques mois, voire en quelques semaines, c'est une arnaque. Donc en conclusion, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est faux. Et si vous pensez que vous allez être plus malin que tout le monde, il y a de bonnes chances que vous soyez en fait le dindon de la farce.
Très bien. Beau papier.
Alors, est-ce que vous avez... Non, c'est trop tard parce que l'affaire est close, mais 1855, c'était aussi... Pour certains, une arnaque.
Grande arnaque.
C'était une arnaque, mais à la base, je pense qu'ils voulaient vraiment acheter les banques. Là, il n'y a pas de vin, en fait. Hein. Oui. Et donc, il y a une trentaine de sites actuellement qui ne sont pas tous en cours. Il y en a d'autres qui ont été fermés, mais il y en a une dizaine qui sont encore sur le net, comme ça. Mmh. Alors qu'il y en a qui font leur travail et qui achètent vraiment des bouteilles, qui les stockent vraiment. Oui. Ouais. C'est des placements à risque, mais ça reste des placements.
Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà en prison pour ça ou pas encore ? Les affaires sont en cours ?
Non, non. Bah, en fait, le problème, c'est que souvent, les sociétés ferment. Ce ne sont pas des vrais gérants, c'est des gérants fictifs.
Ouais.
Donc ensuite, pour les retrouver... Souvent, d'ailleurs, c'est des comptes à l'étranger.
Oui, c'est ça. C'est en France.
C'est très, très compliqué.
Même pour se consoler, il n'y a même pas moyen de boire une bouteille.
Non, même pas. C'est avec modération.
Merci très bien.
Très bon papier, Invino. Sud Radio marque une petite pause. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas. Et justement, on va en parler. On va parler de l'eau et de l'irrigation dans la vigne.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas, à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec David Cobode, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, qui s'intéresse à l'eau.
Le vin, c'est 85% d'eau, donc comment ne pas s'y intéresser?
Ouais.
Alors, cette question, non, je vais parler de l'irrigation de la vigne, qui est très courante dans beaucoup de pays au monde, mais pas très courant en France, mais ça existe en France et c'est autorisé, et ça, on le sait peut-être un peu moins. Probablement au résultat des réchauffements climatiques, en tout cas des épisodes extrêmes climatiques comprenant des grandes périodes de sécheresse pendant la période de croissance. Alors, ça divise un peu les opinions, surtout lorsqu'on met une bonne dose d'idées reçues. Le vieil adage qui disait « faut que la vigne souffre pour faire de bons vins », bon, oui, mais pas trop. Hein. La vigne n'est pas une masochiste totale. Hein. Donc on peut la contraindre un peu, il faut parfois la contraindre selon le type de vin qu'on veut faire. Il y a des limitations sur les rendements de toute façon inscrits dans les appellations contrôlées, toutes. L'irrigation n'est pas en soi un danger, mais l'irrigation pose un certain nombre de questions, notamment au niveau des ressources, au niveau des moyens et au niveau des objectifs, c'est-à-dire le type de vin qu'on veut produire. Alors, pourquoi est-ce que l'irrigation est nécessaire? D'abord, la vigne, elle ne pousse pas dans le désert, sinon ça se saurait, tout le Sahara sera couvert de vignes. Il faut de l'eau. Et il faut de l'eau au bon moment. Or, le problème avec l'eau, c'est qu'en général, dans nos pays tout au moins, la plupart de l'eau tombe en hiver ou au printemps, et assez peu, voire pas du tout, pendant les mois estivales. C'est là où la vigne croît, c'est là où le fruit mûrit, se forme et ensuite mûrit. Et on a eu ces problèmes, par exemple, moi c'était, je travaillais pas encore dans le vin, mais je me rappelle de l'été 76, où il y avait l'impôt sécheresse en France, et ben on a vendangé plutôt en Champagne qu'à Perpignan.
C'est incroyable.
Parce que la stress hydrique était telle que la vigne a arrêté de fonctionner, c'est-à-dire que la photosynthèse s'est quasiment arrêtée. Les feuilles se sont recroquevillées, il n'y avait plus de montée de sève. S'il n'y a pas de montée de sève, il n'y a pas de mûrissement du raisin. Donc si on irrigue dans ces périodes-là et dans ces situations-là, si on a le droit de le faire et si on le fait bien, avec des doses à propos, eh bien, on aura des meilleures qualités de raisins, non seulement plus de raisins, mais des raisins mûrs. Le problème, c'est que si vous avez une période de sécheresse, vous n'avez pas de raisins mûrs. Ça ne mûrit pas. Alors, aujourd'hui, il y a des cas en France, dans les pays du Nouveau Monde, l'Argentine, le Chili, etc., quasiment toutes les vignes, en tout cas les jeunes vignes et les vignes où il y a de l'eau, sont irriguées, parce que sinon, c'est des périodes, c'est des étés extrêmement sèches, et vous n'avez pas de mûrissement de raisin. Donc ça, la procédure est totalement acceptée. En France, elle est un peu contrastée. On a longtemps dit qu'il ne fallait pas irriguer. Aujourd'hui, en Provence, on irrigue. Pourquoi ? Parce que les Provençaux ont une grande ressource proche qui s'appelle les Alpes. Et la fonte des neiges et la pluie aussi constituent beaucoup d'eau. Le problème, c'est qu'il faut le capter, cette eau-là. Et les Provençaux ont été plutôt prévoyants à long terme parce qu'ils ont constitué des barrages, des chenaux, des canaux et des acheminements de l'eau. Donc maintenant, on peut irriguer et on a le droit d'irriguer dans beaucoup d'appellations provençaux. Le Languedoc est un peu plus clivé. Disons qu'ils ont été moins organisés au niveau du captage des réservoirs d'eau. Mais on peut irriguer dans certaines parties du Languedoc. Et c'est certain que dans une année très sèche, on fera de meilleurs vins avec une irrigation. Après, les moyens. Les moyens, aujourd'hui, se sont beaucoup sophistiqués. Il ne suffit plus d'ouvrir une trappe et d'inonder la vigne, comme je l'ai vu au Chili il y a quelques années, qui opère qu'en pleine, mais on ne peut pas opérer ça sur les coteaux. Maintenant, c'est des systèmes de goutte à goutte avec... En plus, des sondes hydrosensibles qui sont plongées dans le sol à une certaine profondeur et qui détectent lorsque l'hygrométrie descend en dessous d'un certain niveau. Et là, on déclenche le goutte à goutte, plutôt la nuit, pour éviter des pertes par l'évaporation. Mais la vigne, si elle n'a pas assez d'eau, elle ne peut pas faire du bon vin, voire pas du vin du tout. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Après, bien sûr, il ne s'agit pas d'inonder et de mettre des quantités d'eau. Donc, d'abord, il faut avoir de l'eau. Ensuite, très bien la gérer, la capter, l'acheminer. Et tout ça, ça a un coût, puisque l'installation des systèmes de goutte à goutte nécessite non seulement des tuyaux, mais des pompes, une gestion intelligente, peut-être par ordinateur, et ça renchérit forcément le coût de la production.
De combien, David ?
C'est difficile de calculer, ça dépend honnêtement du... Mais honnêtement,
plus cher.
Ça coûte un peu plus cher. Une fois le système installé, il est amorti au bout de 2-3 ans.
Merci David Cobold, belle chronique également. Invino Sud Radio retrouve Bertrand Rougier, rédacteur en chef du magazine du vin, pour nous parler du château Pêche-Haut dans le Languedoc. On parle des beaux châteaux aujourd'hui. Hein.
Ah oui, très très beau château. J'y suis allé il n'y a pas très longtemps, parce que je voulais voir ce que c'était devenu. Monsieur Bru, Gérard de son prénom, qui a fait sa folie, ce château et sa folie, fait aujourd'hui de manière presque unanimement reconnue parmi les plus grands vins du Languedoc-Roussillon. Et il mérite son succès. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à encore 2 ans, de 2005 on va dire à 2016, il se faisait moquer sur tous les forums partout, c'était l'industriel du vin, c'était le crétin de base, et il chopait pas une note au-dessus de 14 sur 20 quand ses vins étaient déjà extraordinaires. Et je vais vous raconter, pas ces vins, parce que je vous dis, ils sont extraordinaires, ils sont super bons. Je bois pas un vin au-dessous de 18 sur 20, et des vins de Monsieur Bru dans ma cave, j'en ai des centaines. Il a beaucoup de cuvées, il fait des choses formidables, et son histoire, elle est assez extraordinaire. Gérard Bru, il a commencé sa vie dans le Languedoc, il s'est occupé d'un petit bout de terre au-dessus de Pic-Saint-Loup, où il surveillait des chiens. Voilà. Il a fait des grandes études, il a fait une très belle carrière. En 1991, il a vendu son entreprise de 500 employés qui était spécialisée dans les transformateurs électriques, les plastiques, les tôleries et les centrales à béton.
Ça fait un peu rêver quand même.
Ouais. C'est très sexy ça.
Voilà, pourquoi faire ? Eh bien, pour acheter un domaine exactement là où il gardait les chiens quand il était petit, parce qu'il était persuadé que ces terres autour du Pic-Saint-Loup pourraient donner quelque chose de formidable. Donc il a fait ça, il a acquis en 1980 25 hectares de terre vierge où quasiment rien n'était planté, il n'y avait aucun bâtiment et ces terres qui sont aujourd'hui classées en Pic-Saint-Loup ou en coteaux du Languedoc n'étaient même pas encore à l'époque reconnues par l'AOC, ce qui est logique parce qu'il y avait peut-être 2 hectares de vignes sur les 25. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a arraché tous les oliviers et il a planté Syrah, Carignan, Grenache, Roussanne et Marsanne sur ce qui lui a semblé être les plus belles parcelles. Et sur la parcelle qui lui a semblé la moins bien, eh bien, il a fait démonter l'ancienne préfecture de Montpellier, qu'il a fait rebâtir pierre par pierre pour que cette dernière devienne son chai. Ensuite, comme il était passionné par les barriques, il a fait remplir son chai de plus de 30 types de barriques et de fûts différents. Il a engagé des artistes pour les peindre, pour choisir les meilleurs bois, etc. Bref, il n'avait pas encore fait couler la moindre goutte de raisin qu'il avait déjà investi plus de 25 millions d'euros dans son projet. Alors comme ça fait le salaud de riche, ma foi, il a dépensé une petite fraction de sa fortune. Non, il avait vendu pour 30 millions d'euros.
Oui, donc
il avait
beaucoup.
Quasiment, voilà. Donc soit il réussissait, soit il était pas planté. À la rue, mais voilà, soit il était sévèrement planté. Et puis, vu les ambitions, enfin vu l'argent qu'il avait dépensé, à un moment il s'est vite rendu compte que, comme il ne souhaitait pas faire du mécénat viticole, il n'aurait pas d'autre choix que de faire des vins exceptionnels. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, il ne savait pas faire de vin. Donc il est allé un petit peu à la ramasse, aller voir les œnologues autour de la France pour lui dire « voilà, j'aimerais faire des bons vins ici ». Tout le monde lui a claqué la porte au nez, sauf un, et finalement il a eu de la chance, c'était Michel Roland. Alors c'est pas trop ses terroirs à Michel Roland, hein, c'est plutôt le Bordelais, mais pendant 10 ans, de 1999 à 2009, il a fait de très très grands vins avec Michel Roland, mais... voilà, un Bordelais qui fait des vins dans le Languedoc. Il avait une très, très mauvaise image de marque, et même auprès des guides. Et pourtant, il faisait déjà des très beaux vins. Et puis, à l'horizon 2009, Michel Roland commençait à un peu vieillir. Et lui a dit très honnêtement...
Il va être content, Michel, s'il écoute l'émission. Hein.
Non, mais il avait d'autres contrats beaucoup plus lucratifs.
Le 2009, c'était il y a 10 ans.
Voilà, il avait moins le temps. Il lui a dit, écoute, moi j'ai donné ce que je pouvais pour le domaine. Il était déjà monté très haut, il le savait. Il dit, mais il faudrait peut-être que tu trouves quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus spécialiste
des
vins du Sud. Et il se rappelait de quelqu'un dont il avait entendu parler, qui avait travaillé à la faculté de Montpellier et qui était œnologue sur Châteauneuf-du-Pape, Philippe Cambi, mais qui, à l'époque, ne faisait aucun consulting pour aucun domaine du Sud. Il était quasiment que sur Châteauneuf. Et il lui a dit, à partir de 2009, si tu veux, c'est toi qui me fais mes vins. Et grosso modo, pourquoi ces vins sont devenus aussi bons aujourd'hui ? Évidemment, il y a une exigence de qualité, il y a des moyens importants qui sont mis dans la vigne, mais aussi et surtout presque dans les chais, on ne va pas se mentir. Mais le château Poëchaud a bénéficié quand même de l'expertise de celui qui est probablement le plus grand œnologue de Bordeaux de ces 30 dernières années, en tout cas pour la confection de vins rouges. Et ensuite, ça a directement été enchaîné sur le plus grand œnologue pour le Grenache.
En réalité, quand on a les stars, ça peut fonctionner. Hein.
Ça peut en effet fonctionner quand on a des stars, mais surtout quand on a des stars. Il faut les traiter correctement.
Comment ça coûte, Bertrand, les bouteilles de ce Poëchaud?
Ça coûte pas très très cher. C'est-à-dire que ces deux cuvées emblématiques, que sont Prestige et Tête de Bélier, coûtent entre 15 euros pour l'une, dans les trois couleurs, et 25 euros pour l'autre. C'est très raisonnable. Et ensuite, il a des têtes de cuvées, mais ces dernières plafonnent à 60 euros.
Merci beaucoup, Bertrand Rouget. Merci également à vous, Hélène, David et Fabien. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission et à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fm ou sur notre page de Facebook. Invino se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisé, nous serons chez Nicolas, le caviste Nicolas, fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.